Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 5h30 à Goma et Bukavu. Il est 4h30 ici à Paris.
Vincent Dublange.
Afrique Matin, c'est parti. Et les Kivu, toujours à la une de l'actualité africaine de ce lundi. Tandis que des combats sont signalés au sud, au nord, à Goma, les camps de déplacés se vident de leurs habitants. Témoignage dans un instant. La tension dans la sous-région, elle, demeure forte. En témoignent les propos ces derniers jours du chef de l'État burundais sur une volonté offensive du Rwanda et le risque d'un conflit régional. Kigali répond fermement et dit n'être que dans une posture défensive. Également à la une ce matin, les frappes américaines contre le groupe État islamique en Somalie. De hauts responsables seraient morts. On évoque aussi le sort de l'opposant emprisonné Ahmed Saïd Mohamed aux Comores. Une députée française demande que Paris agisse pour ce franco-comorien. On vous brosse le portrait d'un jeune footballeur de 17 ans. Il cartonne en ce moment avec le TP Mazembe en RDC. Et on vous présente pendant les 10 prochains jours les finalistes du prix RFI Découverte 2025. Joyce Babatunde, elle est camerounaise ce matin dans 10 minutes. Rendez-vous. Une grande partie de la ville de Goma est tombée entre les mains de l'armée rwandaise. Déclaration hier soir du ministre congolais de la communication et des médias sur les antennes de nos consoeurs et confrères de TV5 Monde. Patrick Mouyaya qui insiste, il parle bien d'une ville en grande partie aux mains de l'armée rwandaise et non du M23 puisque, dit-il, le M23 n'existe pas. Fin de citation. Une déclaration quelques heures après ce communiqué des pays du G7 qui condamne fermement, je cite, la prise de Minova, de Sake et de Goma. Sur le terrain militaire, l'armée congolaise annonce le décès d'un de ses officiers dans des combats dans la province du Sud Kivu. Le colonel Rugabisha est mort samedi aux environs de Mukwiza, dans le territoire de Calais, après avoir repoussé, selon l'armée, les combattants du M23 et l'armée rwandaise de Nyabibwe. C'est à une 60aine de kilomètres de Bukavu. La Tanzanie, elle, dit avoir perdu 2 soldats la semaine dernière dans les combats à Goma. Goma, où ces dernières années, de nombreux camps de déplacés internes accueillaient des centaines de milliers de personnes. Certains se vident de leurs habitants. C'est notamment le cas à quelques encablures au nord de la capitale provinciale. Le récit de Paul Lorgerie.
Les dizaines de milliers de tentes de fortune qui envahissaient les sites de déplacés de Bushagala et Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo ont disparu. Seules quelques pierres volcaniques qui en délimitaient les contours ainsi que des sachets plastiques et habits sont encore visibles. En lieu et place du brouhaha, des activités quotidiennes des déplacés, les oiseaux chantent et des enfants jouent au football sur un terrain désormais abandonné. Monsieur Kambale, un habitant des environs, s'étonne de ce vide soudain.
Ici, il y avait un grand camp de personnes déplacées venues de Rutshuru, de Masisi, de Kichanga ou de Kibumba qui avaient fui la guerre. Quand les combats sont arrivés ici, à Goma, ils ont détruit leurs tentes et certains ont regagné leur village comme Kibumba, Rutshuru. C'est pourquoi le camp s'est vidé. Il y avait du monde qui vivait ici, mais désormais, il n'y a plus personne.
Ce dimanche, sur la route qui relie Goma à Rutshuru, des camions et motos ont été aperçus remplis de déplacés regagnant leur village. Généreuse, elle aussi déplacée, hésite pour sa part à rentrer chez elle.
Les voisins qui ont les moyens sont rentrés chez eux. D'autres encore ont trouvé refuge dans des familles d'accueil ou dans des écoles. Pour ma part, je n'ai pas les moyens de payer le transport. Mais si je reçois de l'aide, je rentrerai. Je regagnerai mon village, car la paix est revenue. Mon souci est que ma maison à Boussanza a été détruite par une bombe, ce qui m'inquiète. Et je demande à ce qu'elle soit reconstruite.
Selon leurs responsables, les sites de Bushagala et de Kanyaruchinya ont abrité plus de 700 000 déplacés sur les 2 dernières années.
Et Human Rights Watch, on le disait hier matin sur l'antenne, demande aux forces armées rwandaises et au M23 de garantir l'accès humanitaire et l'acheminement de l'aide humanitaire à la population, y compris aux déplacés, donc qui vivraient toujours autour de Goma. Des témoins ont dit à Human Rights Watch que le M23 notamment dit aux déplacés de rentrer chez eux. Côté diplomatie, y aura-t-il un sommet conjoint SADC-EAC? Les deux organisations sous-régionales semblent d'accord sur le principe, mais elles affichent des positions très différentes. La communauté d'Afrique australe, la SADC, est plutôt derrière la RDC, tandis que la communauté de l'Afrique de l'Est, l'EAC, demande à Kinshasa de discuter avec le M23. Les tensions sont vives dans la région. Il y a un risque de conflit plus large, juge ce matin le spécialiste Jason Stearns sur RFI. C'était l'avertissement lancé vendredi soir par le président burundais Evariste Ndayishimiye qui accuse le Rwanda de velléité offensive. Kigali répond, Lucie Mouillot.
Les forces de défense rwandaises défendent les frontières, elles n'attaquent pas les civils, affirme dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. Dénonçant les actions de la mission de la SADC en RDC, Kigali se dit cependant favorable à un sommet conjoint entre les pays d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Alain Mukuralinda, porte-parole du gouvernement.
Le Rwanda soutiendra toujours une position qui va dans le sens de la recherche de la paix par les pourparlers, par les négociations, à part peut-être le gouvernement congolais, tout le monde est convaincu que ce problème ne sera pas résolu par la voie militaire.
Dans un discours à Bujumbura, le président burundais Evariste Ndayishimiye alerte de son côté sur le risque de régionalisation du conflit, accusant le Rwanda, je cite, de préparer quelque chose contre son pays, des déclarations rejetées par Kigali.
Il oublie de dire qu'il participe déjà à la guerre aux côtés de FARDC et de Wazalendo et d'FDLR. Le Burundi est déjà en guerre. C'est toujours des accusations qui viennent sans preuve, sans fondement. Le Rwanda devra se défendre si c'est nécessaire, mais le Rwanda n'a pas attaqué qui que ce soit.
Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont eux aussi appelé le M23 et les forces rwandaises à mettre fin à leur offensive à l'est de la RDC. Si Kigali n'a jamais admis apporter un soutien aux rebelles, le gouvernement parle de mesures défensives à la frontière. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
En Somalie, le gouvernement de la région semi-autonome du Puntland et les autorités de Mogadiscio confirment que des frappes américaines ont bien tué des figures clés, je cite, du groupe État islamique. Samedi, Donald Trump, le président américain, avait annoncé que l'armée américaine avait traqué et tué un responsable du groupe, mais aussi d'autres djihadistes. RFI New York, Karine Otten.
Les deux gouvernements somaliens ont réagi hier en exprimant leur sincère et profonde gratitude à Washington après avoir confirmé que les frappes américaines sur les Mongolies avaient bien tué des figures clés du groupe État islamique. Le I est moins présent en Somalie que les Shebab affiliés à Al-Qaïda, mais l'ONU a prévenu qu'il gagnait en influence et les forces du Puntland ont justement monté une opération le ciblant depuis fin décembre. Ces tueurs que nous avons retrouvés cachés dans des grottes menaçaient les États-Unis et nos alliés, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le dernier attentat signé État islamique sur le sol américain, c'était le 14 janvier à la Nouvelle-Orléans, quand un ex-militaire américain a fait foncer sa voiture dans la foule, fauchant 14 personnes. Il s'était revendiqué de l'EI. Impossible de savoir si cette opération conjointe, comme l'affirme Mogadiscio, avait été planifiée sous l'administration Biden. L'an dernier, les États-Unis ont déjà mené une attaque en coordination avec la Somalie et tué 3 membres du groupe État islamique. Karine Otten, New York, RFI.
Au Kenya, toujours 29 personnes portées disparues, 29 hommes ou femmes enlevés dans le contexte des manifestations qui secouent régulièrement le pays depuis juin dernier. Répression qui, donc, selon de multiples organisations de défense des droits humains, consiste notamment en des enlèvements, 89 kidnappings en tout documentés par la Commission kenyane des droits humains, 60 personnes libérées, mais elles continuent elles-mêmes d'être menacées. Elles ont témoigné hier devant cette commission Alban Tiroir.
Leur histoire avait choqué le pays. Le militant Bom Jaggi ainsi que deux frères, Jamil et Aslan Langton, ont été kidnappés le 19 août après avoir participé aux manifestations anti-gouvernementales. Portés disparus pendant 32 jours, ils ont depuis raconté avoir subi torture et intimidation et disent continuer de vivre dans la peur. Bom Jaggi.
Le 5 janvier 2025, à 6h du matin, j'ai remarqué qu'une voiture noire me suivait lors de mon footing matinal. Pendant plusieurs jours, le même véhicule était garé près de mon lieu de travail. La même voiture a aussi été observée en train de surveiller Jamil et Aslan Langton à plusieurs reprises. En tant que survivants de disparition forcée, nous savons que l'État nous cible car nous sommes des témoins des enlèvements en cours, des actes de torture et du traumatisme qui en découle.
Des proches de personnes décédées ou portées disparues ont aussi pris la parole, comme Duncan Zalo. Le corps de son frère, Justus Mutumwa, vient d'être trouvé à la morgue de Nairobi. Il était porté disparu depuis le 16 décembre.
J'ai pris la parole publiquement pour demander sa libération. Et j'ai commencé à recevoir de nombreux appels menaçants me disant de laisser tomber. La personne au téléphone m'a prévenu que je risquais aussi de disparaître. J'ai vite remarqué que j'étais suivi par des individus que je suspecte aussi d'être des agents de sécurité.
La Commission kenyane des droits humains a dénoncé hier un État qui semble, je cite, vouloir éliminer les témoins de la récente vague d'enlèvement afin d'empêcher toute procédure judiciaire. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Il est 6h39 à Moroni. Cela fait maintenant plus d'un an que le franco-comorien Ahmed Saïd Mohamed est détenu dans une prison de la capitale. Le chef de file du parti d'opposition URI, ancien candidat à la présidentielle de 2019, a été arrêté quelques jours avant le scrutin présidentiel de l'année dernière. Il a entamé il y a 2 semaines une grève de la faim pour protester contre son incarcération à Moroni. L'inquiétude pour sa vie n'a jamais été aussi grande, dit une personnalité qui le soutient, la députée française Dominique Voynet. Elle est membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française et elle a écrit une lettre au ministre français des affaires étrangères.
Je lui ai rappelé que Monsieur Saïd Mohamed était certes comorien mais aussi français et qu'il se devait défendre la liberté de notre ressortissant mais aussi son droit à avoir accès à un avocat, avoir accès à un procès équitable si on lui reproche quelque chose de précis. Moi je pense qu'on ne lui reproche rien d'autre que le fait de s'être opposé politiquement et de façon non violente au président actuel des Comores. Année après année, les libertés se restreignent aux Comores. On continue à avoir une presse pluraliste, ce qui est bien, mais les personnes qui osent s'exprimer haut et fort voient leur liberté de déplacement et leur liberté tout court réduite année après année. Et donc, plus on parlera de la situation de M. Saïd Mohamed, plus on empêchera le gouvernement comorien de le maltraiter, de le détenir à l'isolement. Donc, on est face à une situation de violation totale de ses droits fondamentaux, à la fois en tant que personne et en tant que personne détenue.
La députée française Dominique Voynet, qui s'exprimait donc à propos du franco-comorien Ahmed Saïd Mohamed, propos recueillis par Wely Diallo. Les sports et le foot congolais, le TP Mazembe et Saint-Éloi Lupopo devaient se rencontrer ce week-end, mais la rencontre est reportée. Les corbeaux de Lubumbashi qui comptent en tout cas en ce moment dans le championnat congolais sur un jeune talent. Il s'appelle Faveur Dibongeli, il n'a que 17 ans, il a inscrit 2 buts et 3 passes décisives également. En 3 matchs, Pascal Mangala l'a rencontré pour nous.
Faire fi des médias qui ont tendance à trop l'encenser, Faveur Dibongeli espère plutôt continuer à apprendre aux côtés de ses aînés et des coachs pour grandir.
Les réseaux sociaux, quoi que ce soit, donc j'ai pas d'abord dans ma tête. Moi, je dois atteindre les sommets du foot d'abord, travailler avec humilité, donc à écouter le coach, à écouter les consignes de vieux au terrain.
Inspiré par Cristiano Ronaldo, le jeune attaquant des Corbeaux a une marge de progression qui promet, selon Alexandre Jurin, coach adjoint du TP.
Faveur Di commence à être beaucoup plus efficace. Au tout début, dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans la finition, il pêchait un peu et à force de travail, il commence à progresser là-dessus.
Sylvie Meya, journaliste des sports de Top Congo FM de Kinshasa, compare plutôt Bongeli à Trésor Mputu, star incontesté du football de RDC des deux dernières décennies et qui était arrivé à Mazembe à l'âge de 18 ans.
Bongeli, lui, il a 17 ans, à une année près, il a le flair, il est technique, avec le travail, avec l'encadrement, avec l'environnement propice, ce garçon-là peut faire plus, pourquoi pas, nous faire ressentir ce que Trésor n'a pas pu nous faire ressentir de plus.
Pour beaucoup d'autres Congolais, Faveur Dibongeli est simplement une étoile faite pour briller. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Un mot de judo avec le tournoi du Grand Slam à Paris ce week-end. Il n'a pas souri à la malgache Laura Rasunaïv Razaf. La judokate de 21 ans a été éliminée d'entrée dans la catégorie des moins de 70 kilos à l'issue d'un premier combat qu'elle dominait pourtant nettement. On va se quitter en musique avec cette compositrice et chanteuse camerounaise Joyce Babatunde. Elle figure parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. On va vous présenter chaque finaliste chaque jour pendant les 10 jours à venir. Le nom du vainqueur sera annoncé le 18 février prochain. Olivier Roger. Yo, I got the
Bonjour, je m'appelle Joyce Babatunde. Je suis artiste, compositrice, chanteuse, rappeuse venant du Cameroun. Je suis très heureuse de figurer parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI. Let's go!
De l'afro-soul, c'est ainsi que Joyce Babatunde définit sa musique qui entremêle jusqu'au cœur des chansons plusieurs styles actuels, rap, funk, R&B et des rythmes plus traditionnels de son Cameroun natal. À 35 ans, Joyce Babatunde s'appuie déjà sur 8 années d'expérience musicale et une technique vocale très convaincante. Passée par le laboratoire musical de Bastos, incubateur de talents de la capitale camerounaise, elle a sorti un premier album très remarqué en 2023, Kwa Koko Bible. Venue des régions anglophones du pays, Joyce Babatunde chante principalement en anglais. Dans ses textes, elle n'hésite pas, avec une plume subtile, à dénoncer les maux qui frappent son pays et notamment la violence.
La voix de Joyce Babatunde, l'une des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Et vous avez le pouvoir, vous pouvez voter jusqu'au 16 février sur le site du prix Découverte RFI 2025.
Afrique Matin sur RFI. Vincent Dublange.
Un accord entre enseignants grévistes et gouvernement français à Mayotte, c'est à la une du journal de nos confrères et consoeurs du réseau La Première dans 10 minutes. Avant cela, votre rendez-vous Afrique Éco au Congo-Brazzaville, une usine qui ferme, des riverains contents, plus de pollution, mais que fait-on des déchets contaminés au plomb ? Le décryptage RFI de l'actualité des matières premières pétrolières en ce lundi où l'on vous explique pourquoi la nouvelle Syrie n'arrive pas à acheter du carburant à l'international. Mais on commence par prendre la direction des Mascareignes. On les appelle rarement ainsi. Ces trois îles qui forment l'archipel des Mascareignes dans l'océan Indien à l'est de Madagascar. L'une de ces îles est le département français de La Réunion. Les deux autres appartiennent à la République de Maurice. Et c'est là que l'on vous propose une plongée historique ce matin. À la découverte du parcours du premier savant métis de l'archipel des Mascareignes au temps de la colonisation européenne. Et alors que s'ouvre ce lundi une conférence de l'UNESCO sur les routes des esclaves, RFI reportage Abdoulaye Rali.
Le métis Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy a participé aux grands travaux de génie civil et militaire à Port-Louis au temps du système esclavagiste colonial. Longtemps oublié, ce premier savant de sang mêlé des Mascareignes renaît aujourd'hui à travers Grand Noir, un ouvrage signé Didier Souben.
Le livre démontre comment, à une époque de notre histoire, il y a eu l'esclavage, il y a eu un code noir qui interdisait le mélange entre blanc et noir, et que dans cette même époque, il y a eu un petit jeune, le premier métis qui est devenu le savant de la zone indienne-océanique.
Né en 1755 à La Réunion, Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy est le fils d'un blanc et de l'esclave Niama. Devenu ingénieur géographe, il a réalisé les premières cartes précises des Mascareignes. L'une d'elles est exposée au Blue Penny Museum à Port-Louis, un travail qui fascine encore aujourd'hui Emmanuel Richon, conservateur du musée.
C'est quand même à lui qu'on doit les premières cartes de Madagascar et des Seychelles. Et puis les premières cartes, par exemple, avec La Réunion et Maurice à la fois. Ah, c'est lui qui a fait les premières cartes terrestres et maritimes de toute cette région, quoi.
Son expertise impressionne à tel point le milieu scientifique qu'il est nommé membre correspondant de l'Académie royale des sciences en France. En 1810, lors de la conquête britannique de Maurice, Lisley-Geoffroy est commandant en chef du génie. Ses qualités sont tout de suite reconnues par l'administration britannique.
C'est lui qui a remis les clés, qui a fait le travail de passation entre l'administration française et l'administration anglaise. Il était quand même un peu diplomate, quoi, pour servir de lien entre les deux. Et d'ailleurs, il a fait les deux premières cartes anglaises. Ça s'appelle encore Île-de-France dessus.
Comment Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy s'est-il fait connaître dans la région ? Tout commence à La Réunion, où le naturaliste français Philibert Commerson le découvre lors d'un voyage dans les Mascareignes, selon le président de la Société royale des arts et des sciences de l'île Maurice, Pierre Bessac.
C'était le premier contact avec Lisley-Geoffroy. Certainement Commerson, revenu à Maurice, en a parlé, et il l'a donc fait venir. Et donc, Lisley-Geoffroy s'est implanté à Maurice et resté à Maurice. Comme ingénieur, il avait ses bureaux de la marine ici à Port-Louis.
Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy meurt à Port-Louis en 1836, à 81 ans. À l'annonce de son décès, l'Académie des sciences en France saluait un homme de brillante intelligence, chercheur de valeur et érudit. Abdullah Erali, Port-Louis.
L'actualité à Maurice, c'est aussi la chanteuse mauricienne Lisa Ducasse. Elle sera l'invitée de l'émission de Vive Voix à 17h30, heure de Port-Louis tout à l'heure. 13h30, temps universel sur RFI. L'actualité musicale, on est en direct et ça vient de tomber à l'instant. C'est aussi Beyoncé qui remporte le prix du meilleur album country aux Grammy Awards à Los Angeles. C'est la première artiste noire à remporter ce prix du meilleur album country aux États-Unis. Et l'actualité internationale de ce jour, c'est aussi Donald Trump, aux États-Unis toujours, qui ouvre la porte à des discussions aujourd'hui avec le Canada et le Mexique. Il va appeler le Premier ministre canadien et la présidente mexicaine pour discuter de cette hausse de droits de douane annoncée. Le secrétaire d'État américain, lui, Marco Rubio, menace le Panama de mesures en l'absence de changements immédiats sur le canal de Panama. Le président panaméen propose des discussions technique aux États-Unis. Il dit ne pas croire à une intervention militaire. Des dizaines de milliers de manifestants dans le centre de Berlin hier contre un rapprochement amorcé entre la droite et l'extrême droite allemande. À 3 semaines maintenant des élections législatives, le favori du scrutin est le chef de file de la CDU. Et puis en France, le Premier ministre François Bayrou fera usage pour la première fois aujourd'hui de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget. Il ouvre ainsi la porte à une motion de censure à l'issue incertaine. Elle sera soumise au vote mercredi. Parlons maintenant en détail de cette décision salutaire et sanitaire pour les riverains, mais qui interroge sur le long terme. Afrique Économie au Congo-Brazzaville, dans la capitale économique Pointe-Noire, les autorités ont fait fermer une usine de recyclage des objets contenant du plomb, Metsa Congo, entreprise à capitaux indiens. Loïcia Martial, les habitants se plaignaient de la pollution, mais quid de l'économie circulaire ?
Le dos tourné au centre de Pointe-Noire, nous nous dirigeons vers le poste de péage de Mengo, au nord de la ville. Plusieurs mètres sur la droite se dressent les fourneaux de Metsa Congo. En approchant de l'établissement, on constate que toutes ces portes sont fermées. Les dirigeants et au moins 70 employés sont introuvables. Cyril Traoré Dembi, président du collectif des riverains, explique pourquoi.
Au moment où nous parlons, l'usine est en cours de démantèlement suite à une décision qui a été prise par Madame la ministre de l'Environnement. Sommant l'usine à démanteler ses installations et à partir s'implanter ailleurs.
En 2013, cette société a mis en place un système de collecte auprès des vendeurs sans bilan des déchets contenant du plomb et de l'aluminium. Elle procédait ensuite à la fusion de ces composants pour les transformer en lingots qui sont ensuite exportés. L'arrêt des activités de cette usine représente un manque à gagner, selon Alphonse Ndongo, analyste économique.
Une société comme celle-là représente considérablement un poids économique dans la mesure non seulement elle offre des emplois aux jeunes, mais aussi en termes de contribution fiscale.
D'après une source proche du dossier, aucun site n'a été trouvé pour réinstaller cette société suite à son démantèlement. Une situation qui questionne Alphonse Ndongo, qui craint que les batteries jadis recyclées ne soient jetées sauvagement dans la nature.
Une décision, peut-être qu'elle n'aurait pas dû se prendre comme ça à la va-vite, il fallait peut-être en tenir compte et créer un mécanisme qui permet de délocaliser le lieu d'implantation de cette société afin que l'État et ceux qui sont aux alentours ne perdent pas tout.
La société a été fermée suite aux plaintes des riverains qui dénonçaient une pollution au plomb. Aujourd'hui, ils se sentent soulagés.
Désormais, nous n'avons plus à inhaler les fumées ni à ingérer les poussières de plomb.
Entre la maladie et le travail, je crois qu'autant mieux se préserver de la maladie que de chercher à gagner de l'argent qui vous rendra malade.
Pour ces riverains, l'action du gouvernement est salvatrice, mais ils souhaitent également des dédommagements de la société. Ils affirment que leurs sols ont été pollués par le versement des résidus d'huile. Loïcia Martial, de retour de Pointe-Noire, RFI.
Et à Brazzaville comme à Pointe-Noire, vous nous écoutez sur le 93.2 FM. Et si vous loupez quelque chose, vous retrouvez tout sur notre appli de podcast RFI Pure Radio, notamment la chronique des matières premières. Tous les jours, ce matin, on vous parle de ces producteurs de pétrole qui ne se précipitent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, pour approvisionner la Syrie. Et c'est un casse-tête pour le pays qui va devoir trouver d'autres solutions, Marie-Pierre Olfand.
Pour ses besoins immédiats, la Syrie cherche à importer 4,2 millions de barils de pétrole brut ainsi que 100 000 tonnes de fuel et de diesel. Des volumes qu'elle va devoir donc se procurer auprès d'intermédiaires locaux puisque les majors pétrolières ont boudé les appels d'offres émis par Damas. Certaines sources au sein de ces majors auraient avancé un manque de visibilité sur la levée des sanctions européennes. L'UE a déclaré lundi qu'une feuille de route pour alléger les sanctions contre la Syrie était prête mais qu'elle prévoyait une approche graduelle. D'autres fournisseurs de pétrole auraient été dissuadés par les conditions financières. Un paiement à crédit assorti d'une obligation pour le vendeur de déposer une somme dans une banque syrienne allant de 200 à 500 000 dollars. On appelle ça une garantie de performance. Elle permet à la Syrie de s'assurer qu'au dernier moment, le pétrole qu'elle attend ne sera pas dérouté vers une autre destination. La pratique est courante, explique un négociant, et les montants demandés en dépôt n'ont rien d'exceptionnel puisqu'ils peuvent être parfois beaucoup plus élevés dans certains pays. Mais de fait, dans ce cas précis, la vente a visiblement été jugée trop risquée ou pas assez intéressante par les majors pétrolières. Ce désintérêt pourrait mettre en difficulté la Syrie et compromettre sa volonté de redresser son tissu économique. Les besoins du pays en produits raffinés oscillent entre 100 et 200 000 barils par jour. Ils étaient largement couverts avant la guerre par une production de 400 000 barils par jour de brut. Mais depuis le début du conflit en 2011, la production s'est effondrée et le pays est devenu dépendant de l'Iran pour son approvisionnement. Or, plus aucune cargaison iranienne de brut n'est arrivée depuis le mois de novembre dernier. dernier. Le pays doit donc à tout prix trouver de nouveaux fournisseurs. Le risque pour la Syrie est de se retrouver à sec et de voir rapidement les prix grimper à la pompe, ce que cherche généralement à éviter un gouvernement nouvellement installé.
Marie-Pierre Olfan du service économie de Radio France Internationale. On rejoint nos collègues, nos confrères, consoeurs de La Première dans l'océan Indien. À Mayotte, les enseignants en grève ont annoncé la suspension de leur mouvement jusqu'au mois de mars. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Reçu vendredi par la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, les syndicats lui avaient soumis trois revendications, une prime Chido de 2000 euros pour tous, une revalorisation de l'indexation de 40 à 75% et enfin une sécurité renforcée dans les établissements scolaires. Rivo Racotondravel est le secrétaire départemental du SNES FSU Mayotte. Il est au micro de Yousra Mahadali.
Les collègues qui n'ont pas eu l'aide exceptionnelle percevront. Madame la ministre s'est engagée à soutenir la revendication sur l'augmentation du taux d'indexation des salaires. On refera un point là-dessus d'ailleurs vers la mi-mars. C'est le délai qu'elle nous a fixé.
On reste à Mayotte avec de la pluie en pleine saison des pluies. Rien de bien anormal à première vue, mais ces précipitations orageuses qui s'abattent en ce moment sur Mayotte ne sont pas vraiment les bienvenues. Le département 101, on le sait, ayant déjà été balayé par Chido au mois de décembre et inondé par Dikeledi au mois de janvier. Raphaël Kahn.
Des rivières en crue, des rues transformées en torrents. C'est l'image en ce moment dans plusieurs villages, notamment du centre et du sud. À Chirongui, dans le quartier du pôle culturel, 25 personnes ont dû être évacuées préventivement. Les secours sont intervenus pour dégager les arbres qui encombrent la ravine. Autre intervention sur la RN4 au sud de Port-Wany. La route est coupée à cause d'un éboulement et de chutes d'arbres qui ont arraché un câble de téléphonie. Il faudra entre 2 à 3 heures pour tronçonner et dégager obstacle. Les pompiers envisagent également une évacuation de la population. Ils doivent encore faire des reconnaissances. Des maisons ont également été inondées à Bambo-Est. Là aussi, les secours ont dû récurer un caniveau pour permettre l'écoulement de l'eau. Les pompiers font aussi état de dégâts dans le nord, avec une maison inondée à Kwa et un mur de soutènement effondré à Msangamouji, sans faire de victimes.
L'île de la Réunion, pour terminer, bousculade, agression, règlement de compte. À Saint-Denis, comme dans beaucoup d'autres villes françaises, certains quartiers sont réputés plus difficiles que d'autres. Faut-il y voir pour autant un phénomène de bandes rivales passant leur temps à s'affronter pour le contrôle de la rue ? Certains le pensent et le disent, d'autres estiment qu'on n'en serait pas encore là. Écoutez le reportage d'Adjaya Waro dans le quartier excentré du Moufia.
Moufiazo, le blast de la cité.
Moufiazo ne désigne que le nom de leur quartier, estiment ces quelques jeunes adultes qui traînent dans un parc de la Rocade. Ils reconnaissent la présence de violence dans le quartier, mais estiment que les mots bande organisée et gang sont exagérés.
Il n'y a pas que les Maoris qui font n'importe quoi. Il y a les Chinois qui font n'importe quoi, les Créoles, les tout. Parce que tout le temps, c'est les Maoris, à ce qui paraît. Il n'y a pas de gang ici, monsieur. Ici, que des amis.
Certains jeunes porteraient des t-shirts à l'effigie de Moufiazo. Ces habitants du quartier voient bien des faits de violence, mais ils ne constatent pas de signes d'appartenance à une bande organisée.
C'est plus des bandes organisées, mais voilà, les plus comme avant. C'est juste des groupes de délinquants qui n'ont rien à faire des autres journées. Ils ont fait le fort parce qu'il a médiatisé. Soit disant c'est un quartier chaud, ben ils ont dit viens faire le chaud d'un quartier chaud.
Côté police, pourtant, tout est là pour parler de gang. Stéphane Patché, délégué départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale.
Ces bandes se distinguent par des façons de s'exprimer, par des moyens vestimentaires bien particuliers. Elles ont aussi une mise en scène sur les réseaux sociaux, avec des photos, des vidéos, avec des armes. Ce sont des profils très jeunes, hein, plus souvent des mineurs, qui jurent fidélité à un chef de gang.
Le syndicat de police salue la lutte anti-bande annoncée par le préfet, mais demande plus de moyens, notamment humains.
Fin de cette édition. Bon début de semaine.
Merci.
Bonne
beaucoup.
Journée.
Merci Benoît, bonne journée à vous. À suivre dans la prochaine demi-heure avec Xavier Besson. Dans une demi-heure tout pile, le prochain journal Afrique. On sera en reportage à Bukavu, où certains font des stocks en ce moment au vu des incertitudes de la situation. On parlera aussi du FMI et du Burundi qui ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde. Les programmes d'aide, c'est fini. Quelles conséquences, quelles perspectives, décryptage dans une demi-heure sur Radio France Internationale. Et puis la Tunisie qui vend des migrants aux milices libyennes, notamment. Rapport de chercheurs que l'on lit, que l'on décrypte dans 5 minutes. Le journal arrive.
Bonjour, c'est Juan Gomez. La Guinée se dirige-t-elle vers un nouveau report de la fin de la transition ? Le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que toutes les élections ne pourront pas se tenir cette année. Pourtant, le général Doumbouya avait promis un référendum et des élections générales en 2025.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.